L'Occitanie Kézako est le thème d'une conférence animée par Isabelle Souroubille et Pascal Bergougnan à la médiathèque Cœur et Couteau du Comminges à Saint-Gaudens. Alors je vous propose de revenir sur cette rencontre ainsi que sur l'histoire, l'origine, les valeurs de l'Occitanie. Isabelle Souroubille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc, je précise, médiatrice culturelle aux archives départementales Antenne du Comminges à Saint-Gaudens et vous êtes accompagnée aujourd'hui de Pascal Bergougnan, bonjour.
À des chats plats.
Alors, vous êtes chargé de mission auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour la valorisation de la culture et de la langue occitane. Alors, expliquez-nous tous les deux vos missions donc, au sein de ces deux structures. Isabelle Sourbille.
Eh bien, moi, mon travail en fait consiste à accueillir le public aux archives départementales, à l'antenne de Saint-Gaudens, de manière à pouvoir familiariser déjà le public adulte, scolaire et enfant sur ce mot un petit peu étrange que sont les archives, ce monde un petit peu étrange que sont les archives, soit méconnu. Et plus particulièrement, je travaille avec des scolaires, du primaire jusqu'au lycée, jusqu'aux étudiants, de manière à pouvoir illustrer peut-être avec un exemple local d'archives une leçon de cours, d'histoire ou de lettres, voilà, selon vraiment les envies des enseignants. L'idée de donner un zoom local sur un événement national en s'appuyant sur des documents d'archives.
Pascal Bergougnan.
Alors, je ne pouvais pas ne pas dire bonjour en occitan aux Comminjois, d'où mon a des chats plats, c'est-à-dire bien le bonjour. Alors, pour répondre à votre question, je fais partie, moi, de la même direction qu'Isabelle, c'est-à-dire à la direction des archives et du patrimoine culturel, mais pas du même service. Je travaille à la mission Occitane et patrimoine. Et donc, je suis chargé de mission, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour valoriser la langue et la culture occitane dans le département. En fait, je suis chargé de mettre en place la politique du conseil départemental en matière de valorisation de la langue occitane.
Alors, je vous propose de revenir sur cette conférence qui a eu lieu récemment à Saint-Gaudens sur le thème l'Occitanie Kézako. Quelle est l'origine du nom Occitanie et quand le nom est-il apparu dans l'histoire ?
Alors, vous posez une question qui est tout à fait fondamentale parce que bien souvent et trop souvent, on pense que le mot Occitanie est un terme récent qui date, on va dire, de l'époque 68arde. Eh bien, pas du tout. Le mot Occitan est un terme très ancien et qui a commencé à être utilisé par l'administration royale lorsqu'elle s'est implantée ici, dans le sud de la France, mais qui n'était pas la France à l'époque, après la croisade des Albigeois. Et les rois de France, donc à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle, ont appelé les territoires nouvellement conquis et rattachés à la couronne de France, ad partes Occitanae, etc., en latin, ce qui signifie les territoires de langue occitane. Donc ce terme occitan, en fait, il a été un petit peu ressuscité, c'est vrai, après mai 68, même un peu avant, disons, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, l'origine de ce mot est une origine très ancienne, puisqu'elle date en fait du Moyen-Âge.
Et comment appelle-t-on les habitants de l'Occitanie ?
Ah, tout simplement les Occitans.
L'Occitan ?
Tout simplement les Occitans. Mais ce qu'il faut savoir, que ces habitants-là ne sont pas réduits uniquement à ceux qui demeurent dans la région Occitanie, actuelle, qui
oui.
correspond à la fusion
de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.
Absolument. L'Occitanie, donc on a une première définition, c'est la définition historique à laquelle on a fait allusion à l'instant. Il y a une deuxième définition, c'est la définition administrative que vous venez justement de rappeler. Et puis il y a la troisième définition, c'est en fait les habitants qui habitent ce territoire où est parlée la langue d'oc. Ou occitan, puisque les deux mots sont entièrement synonymes. Et là, on va de Bayonne, enfin presque Bayonne, oui. puisque Bayonne est à cheval sur le Pays Basque et l'Occitanie, jusqu'à Nice, y compris 13 vallées italiennes, et puis ça va des Pyrénées, jusqu'en gros tout ce qu'on appelle le Limousin et l'Auvergne. Et on empiète même un petit peu sur l'ancienne province du Berry.
Ah oui.
Là,
ça monte haut, là.
Ça monte extrêmement haut. Et là, on a un parler qui est un mélange un petit peu entre le français et l'occitan, mais il y a plus de termes d'origine occitane que française. En revanche, ce qu'on appelle le parler du croissant. En revanche, dans ce parler, que l'on appelle aussi marchois, on a des intonations, un accent tonique qui est en fait l'accent tonique du français, n'est-ce pas ? Donc, il parle un petit peu pointu là-haut, alors que nous, on chante ici.
Vous le disiez à l'instant, l'Occitanie, c'est aussi une langue. Hein. À l'heure actuelle, est-elle toujours parlée, aussi parlée ?
Alors là, vous posez une deuxième question qui me blesse, mon cher monsieur. Elle est toujours parlée.
Oui.
Mais par combien de personnes ? C'est là où il faut se poser la question. Il y a eu une enquête sociolinguistique qui a été menée il y a quelques années, peu de temps après le Covid, et qui disait qu'il y avait 7% de personnes qui était encore locutrice. Alors 7%, ça correspond à quoi ? Parce que le mot locuteur est un terme qui a plusieurs significations. Est-ce que ce sont des locuteurs natifs, c'est-à-dire qui parlent la langue depuis le berceau, quasiment ? Ou est-ce que ce sont des néolocuteurs, c'est-à-dire qui ont appris la langue à l'école ? Et là, il faudrait pouvoir faire le distinguo. Deuxième chose, quel est le niveau de pratique de la langue ? Est-ce que ce sont des gens qui parlent ou qui peuvent parler couramment ? Et encore, ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes, parce qu'il y en a qui parlent couramment, d'autres qui pourraient parler et qui ne parlent pas. Ou est-ce que ce sont des gens qui simplement disent quelques mots ? Donc, pour donner un chiffre et pour répondre à votre question, c'est très difficile. Mais on peut estimer que des locuteurs qui parlent encore la langue, ça doit être, à mon avis, moins de 1%. Moins de 1%. Et malheureusement, le nombre de locuteurs natifs sont des gens âgés qui disparaissent. Et les nouvelles générations qui apprennent la langue sont des générations qui apprennent la langue à l'école. Mais vous savez, je vais vous donner un chiffre. Il n'y a que 0,4% d'enfants qui apprennent l'occitan en bilingue dans les écoles publiques de Haute-Garonne. Et il y en a à peu près le même chiffre qui l'apprennent, dans ce qu'on appelle les calandretos. Ce sont les écoles privées, oui, mais laïques, qui font partie donc, du réseau calandret. Donc on est à moins de 1%, à nouveau, moins de 1% de gamins qui apprennent l'occitan.
Il y a un occitan ou plusieurs occitans ?
Alors, je reprends encore la parole. Ouais. Il y en a une multitude.
Ouais. L'occitan, parce que vu la zone géographique, j'imagine.
L'occitan n'est pas une langue unique, c'est une langue variée, plurielle. Alors on dénombre en gros 6 grands dialectes. Le gascon, on va commencer par celui qui...
Dans le Comminges,
voilà, le gascon. De Toulouse, en gros, au Rhône, on a le languedocien. Du Rhône jusqu'à l'Italie, on a le provençal. Un peu vers le nord, on a le vivaro-alpin, qui correspond en gros à la zone des Alpes et à l'ancienne province du Vivarais, qui est l'Ardèche actuellement. En allant vers l'ouest ou vers le nord-ouest, on a l'auvergnat. Et puis, pour terminer, on a le limousin. Mais il ne faut pas penser qu'on a 6 grands dialectes, distincts, certes, mais qui eux-mêmes sont composés de parlers locaux, alors qui sont moins différenciés d'un dialecte à un autre, mais on a des variétés locales. Le comminjois, qui est du gascon, ben c'est pas tout à fait le même parler que celui d'Auch ou de Pau. Et le parler de l'Île-en-Dodon n'est pas le même tout à fait que celui de Liac, ni que celui de Saint-Gaudens, ni que celui de
Bagnères-de-Luchon.
Voilà. Il y a des différences.
Isabelle Sorbi, vous voulez dire un mot ?
Oui, moi, il me semble important, effectivement, d'insister sur cette notion de diversité. En fait, c'est ça aussi qui fait la richesse, véritablement, de cette entité occitane, tant dans sa langue que dans son histoire, et dans sa constitution, dans l'histoire, justement, de la constitution de ce territoire. Comme tu le disais, Pascal, c'est une appellation qui, à la base, effectivement, était donnée par les gens de langue d'Oïl, et non pas de langue d'Oc. Mais ça n'empêchait pas que, certainement, les entités politiques géographique qui composait ce territoire avaient une pleine conscience qu'ils appartenaient à un territoire avec des points communs, avec des éléments de vie commune qui pouvaient les réunir. On en reparlera certainement. Et puis avec des notions de solidarité, des notions de vivre ensemble aussi qui sont encore, je l'espère, du moins d'actualité.
Justement, vous pouvez nous détailler un peu quelles sont les valeurs de l'Occitanie ?
Alors les valeurs, elles sont, je pense, le fruit de toute cette histoire, le fruit de la composition de ce territoire.
Ce vaste territoire.
Vaste territoire, ouais. Mais effectivement, l'idée peut-être aussi d'un certain statut. Alors peut-être parce que aussi je suis une femme, mais le statut de la femme, effectivement, dans la zone occitane est quand même très important. Et avec, justement, par exemple, ici, pour notre secteur, nous, des Pyrénées centrales, une spécificité très forte qui est que, par exemple, dans les familles, dès le Moyen-Âge et dès l'époque moderne, c'était l'aîné qui héritait. Mais dans les autres zones françaises, l'aîné, c'était la primogéniture mâle, en fait. Tandis que chez nous, en fait, c'est la femme peut très bien hériter, en fait, de la maison, qui est véritablement l'entité forte de la famille, du village. Et pour que, justement, ces maisons ne se dispersent pas, ce nom de maison ne se disperse pas, on n'hésitait pas, effectivement, à privilégier l'héritage au nom des femmes. Et les femmes participaient, avaient une dimension même politique, puisqu'elles pouvaient aussi participer à la gestion des affaires, ce qu'on appellerait aujourd'hui les affaires communales, les mairies, etc. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais il y avait une place de la femme qui était quand même vraiment très, très importante. Donc ça, il me semble que c'était quand même aussi un des éléments caractéristiques. Et puis après, il y a toutes les valeurs liées à, alors un petit peu dans le désordre, la façon de parler, la façon d'écrire. Enfin, ça, Pascal pourra le dire davantage, mais notamment toute la littérature aussi qui véhicule énormément de valeurs. Et puis la façon dont est structuré aussi le territoire, la façon, les échanges, avec par exemple un exemple très très fort qui concerne toute la chaîne pyrénéenne. Vous aviez notamment au XVIe siècle le développement des échanges, des traités d'échange avec le Val d'Aran, notamment ce qu'on appelle le traité des liés-passeries qui permettait la solidarité entre les territoires des Pyrénées centrales côté français et côté aranais, et notamment la gestion des échanges, des troupeaux, la solidarité entre les deux communautés. Puisque justement, la langue est la même, entre autres. La langue et la façon de vivre est la même, et le contexte de vie sont les mêmes, en fait, tout simplement.
Alors, je rajouterai, pour témoigner d'une autre valeur, qui est ce que l'on appelait autrefois, du temps du Moyen-Âge, et en particulier du temps des comtes Raymond de Toulouse et Bernard de Comminges, c'était le parache. Alors, le parache, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à définir aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de mot équivalent en français. En fait, le parage, c'est à la fois le respect de l'autre, le respect de son altérité. C'est une valeur qui nie, en fait, le pouvoir autoritaire du plus fort. Donc, en fait, c'est considérer que les hommes sont égaux malgré leur statut social. Et c'est une valeur aussi donc de respect de l'autre, pardon, de courtoisie. Donc il y a beaucoup de mots en français pour témoigner de cette valeur qui a existé donc pendant tout le Moyen-Âge et pendant aussi l'Ancien Régime. Et ce parage est mis à l'honneur dans un texte qui date du XIIIe siècle, la Canzu de la Cruzado. La Canzu de la Cruzado, c'est une chronique qui a été rédigée à deux mains parce qu'il y a eu deux rédacteurs successifs. Alors le premier, il était plutôt, même s'il était critique, mais en fait, il était plutôt pro-croisade. En revanche, le second était a priori un émissaire ou un conseiller du comte de Toulouse. Et il a fini de rédiger cette chanson de la croisade qui comporte quand même 10 000 vers, d'accord ? Ce qui est quand même un truc énorme. avec beaucoup d'empathie, d'emphase, etc., de poésie. Et il fait très souvent référence, c'est là où je voulais en venir, il fait très souvent référence à cette notion de parage, de parache en occitan, donc de respect de l'autre.
En quelques mots, pouvez-vous nous donner quelques noms qui ont marqué l'histoire de l'Occitanie ?
On a parlé des comtes de Comminges, on a parlé des comtes de Toulouse, la famille des Raymond. En Comminges, c'est plutôt la famille des Bertrand, en fait, qui a marqué cette histoire, avec des lignées, en fait, de, on dirait aujourd'hui de père en fils, en fait, de comtes, qui se sont illustrés soit effectivement au moment de la croisade des Albigeois, au moment des croisades aussi en Orient, et qui ont marqué véritablement le territoire par une empreinte géographique et politique très forte, pendant longtemps par une résistance aussi au pouvoir royal. Le comté de Comminges sera le dernier comté rattaché à la couronne de France, donc avec une entité vraiment forte.
Et pourquoi ? Pourquoi c'était le dernier ?
Chronologiquement, une succession d'événements.
C'était au XVe siècle.
Oui, et puis il y a, alors, par exemple, le rattachement du comté de Toulouse à la couronne de France, c'est aussi le résultat de politiques matrimoniales, en fait, puisque ce sont des alliances entre des familles qui font que. Et quand, pour Toulouse, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le mariage n'a pas donné de fils. Donc, c'est tombé dans l'escarcelle du roi, en fait. Et donc, ça permet à ce comté, notamment à ce comté de Comminges, de s'affirmer pendant très très longtemps. Il remontait très loin, le comté de Comminges, géographiquement, puisqu'on arrivait aux portes de Toulouse.
Au Murtain.
Oui, tout à fait. Et avec des rôles importants, notamment pendant la croisade des Albigeois, des personnages qui avaient une assise territoriale très forte et qui ont pu donc mobiliser aussi facilement des hommes pour, par exemple, résister à des assauts étrangers, entre guillemets, ou de la royauté.
Alors pour donner quelques dates, moi je dirais 12 septembre 1213, la défaite de Muret, bon, qui commence de sonner un petit peu le glas de l'indépendance de nos comtés toulousains, comingeois, etc., même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Comminges n'a pas été rattaché à cette année-là. 1229, traité de Meaux, où là, c'est le comté de Toulouse qui est rattaché à la couronne de France, même s'il y a un différé pour des raisons matrimoniales auxquelles tu faisais allusion tout à l'heure. Après, c'était 1270 ou 1271. Donc ça, à mon avis, ce sont les trois grandes dates qui concernent donc la zone toulousaine. Pour la zone comingeoise, donc c'est le milieu du 15e siècle. Et après, si on fait un bond dans le temps, 14e siècle, 1323, c'est la création de l'Académie des Jeux Floraux, qui a déjà voulu un petit peu restituer la noblesse de notre langue. Et quelques années après, quelques dizaines d'années après, milieu du 16e, avec Bertrand Laralde, qui est un comingeois, n'est-ce pas, qui lui aussi a été primé par cette Académie des Jeux Floraux. D'autres dates symboliques, je dirais malheureusement la période de la Révolution française, où on tente d'éradiquer les langues régionales avec son paroxysme au moment de la Troisième République. Et puis milieu du 20e siècle, une nouvelle renaissance de la langue occitane. Alors, je dis milieu. Je devrais d'abord commencer par la fin du 19e, début 20e, avec le mouvement du Félibrige et de Frédéric Mistral, qui a été primé, prix Nobel de littérature en 1904. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, donc, dans le courant du 20e siècle, c'est la création de l'Institut des études occitanes. Et donc depuis, il y a une volonté associative, plus associative que politique, de maintenir la langue et la culture, occitane. Alors je dis plus associative que politique, il faut que je fasse de suite un bémol, parce que depuis la loi du 21 mai 2021, la loi Molac, qui considère que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Il y avait déjà eu une réforme constitutionnelle en 2008 là-dessus, mais aujourd'hui on a une véritable loi. Dont un rapport vient de sortir là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, un rapport d'évaluation. Mais cette loi-là donne des objectifs en termes d'enseignement et de protection, donc des objectifs politiques, puisque c'est une loi qui a été votée par le Parlement. Oh. Voilà un petit peu quelques dates phares pour illustrer la réponse à la question que vous me posiez.
Pour les personnes qui nous prennent en cours de route, il faut bien dissocier l'Occitanie de la région, Occitanie
Absolument.
Administrative.
Hein, tout à fait,
voilà.
Tout à fait.
Quel avenir vous lui voyez à l'Occitanie ?
À laquelle ?
À l'Occitanie, pas à la région Occitanie.
À l'Occitanie linguistique.
Voilà.
Alors, je suis optimiste de nature, mais aussi réaliste. On est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, je lisais ça récemment, on a 60% des locuteurs qui ont plus de 60 ans. Je confirme, j'ai plus de 60 ans. L'avenir, aujourd'hui, malheureusement, de la langue, ne se fera plus par une transmission familiale. Malheureusement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout, mais il n'y en aura que très peu pour assurer la vitalité de la langue. Il faut à peu près 30% de gens qui parlent une langue pour que cette langue survive. C'est à peu près le cas au Pays Basque. C'est à peu près le cas en Corse. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, on est à moins de 1%. Donc vous vous rendez compte l'immense travail que nous avons à accomplir. Et ce n'est pas un chargé de mission qui peut faire changer la courbe. Donc aujourd'hui, s'il doit y avoir une transmission de la langue et de la culture occitane, ça doit se faire aussi par l'enseignement. Mais pour cela, il faut trouver des enseignants. Des enseignants qui parlent, et ce n'est pas une mince affaire.
Isabelle Sourbi ?
Oui, moi je pense qu'il faut quand même souligner, depuis quelques années, l'énorme travail associatif qui est mis en place, notamment ici localement.
À Saint-Gaudens.
Et puis la présence d'une nouvelle génération, tu faisais allusion à la chanson, une nouvelle génération de groupes, de chanteurs qui sont vraiment très dynamiques sur le secteur. Il y a des cours de, si je ne me trompe pas, au conservatoire ici à Saint-Gaudens, il y a des cours de chant et de musique occitane aussi depuis quelques années. Donc
il y a l'association Esto Comenges.
Oui, tout à fait. Voilà, qui est très,
il y a un festival chaque année au mois de mars.
Et puis, notamment, il y a justement tout le travail de l'équipe de l'association Esto Comenges de collectage aussi de cette mémoire orale qui est quand même importante, qui nous, en tant qu'archives départementales, nous parle aussi énormément. Mais je crois qu'il y a quand même une certaine dynamique. Alors, moi, j'ai connu la période où il y avait plus d'enseignement au lycée, au collège, ni quoi que ce soit. Et dans les classes que je rencontre, y compris les enseignants de primaire, je retrouve quand même, il me semble, peut-être pas de plus en plus, mais il y a quand même un noyau un petit peu solide d'enseignants qui continuent à mettre en avant le gascon, à l'enseigner aussi, et puis le relais de quelques professeurs d'occitan dans les collèges et les lycées, mais qui sont malheureusement souvent sur plusieurs établissements, et c'est quand même très difficile pour eux de gérer l'ensemble. Alors,
un petit chiffre aussi pour compléter ce que tu viens de dire, Isabelle. On a sur le territoire de la Haute-Garonne 101 collèges.
Oui.
Et combien y en a-t-il où on peut apprendre l'occitan ? 19.
19.
Voilà.
Dont certains dans le Comminges.
Alors, dont certains dans le Comminges, à Aurignac en particulier. Mais il n'y en a que 19.
Oui, c'est
en revanche, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, on sent que les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Donc il y a la demande. Mais il n'y a pas encore l'offre. Voilà, il faudrait former des professeurs, etc. Et c'est pas évident. Et pour en revenir à ce que tu disais, en particulier de l'Ousta ou Comenge, c'est vrai qu'ici, sur le Comenge, il y a cette fédération d'associations que constitue l'Ousta ou Comenge, qui est extrêmement dynamique et qui fait un travail remarquable de collectage et de diffusion d'oralité. Et d'ailleurs, ils viennent de sortir ces jours-ci un petit dictionnaire, enfin une petite un bouquin. C'est pas qu'un dictionnaire, mais pour permettre l'apprentissage de l'occitan gascon comingeois.
Et nous allons terminer cette interview avec la gastronomie. Qu'est-ce qui la définit par rapport aux autres régions, la gastronomie?
C'est la meilleure du monde.
Vas-y.
Pardon, c'était un cri du cœur.
Non, mais effectivement, la gastronomie ici, bon, on ne peut pas parler du cassoulet, de la mungetta, des croustades, etc., surtout de la cuisine des cèpes. Je pourrais vous en raconter sur les différentes façon de cuisiner les cèpes entre ici et le Berry, auquel je faisais allusion tout à l'heure. La gastronomie, ça fait partie du savoir-vivre, n'est-ce pas?
Voilà. Je crois qu'elle est à l'image justement de l'identité, en fait, gasconne et comingeoise, quoi. C'est l'expression de ce savoir-vivre ensemble, en fait, qu'on reconnaît depuis le Moyen-Âge, qu'on lit dans les textes d'archives, en fait, dans la façon d'organiser la société. Pour moi, la gastronomie, on parlait de la musique aussi tout à l'heure, c'est l'expression de ça, en fait. C'est l'expression de ce savoir-être, en fait, tout simplement.
Alors, la conférence qui avait pour thème l'Occitanie Kazako, qui a eu lieu donc récemment à Saint-Gaudens, à la médiathèque Cœur et Couteau du Comminges, sera de nouveau proposée le 20 mai prochain à la cafetière à Aurignac.
Tout à fait, à partir de 19h.
Oui, tout à fait.
À part vous deux, de nouveau, on
sera là.
Voilà. On sera là.
La cafetière qui est un tiers-lieu à Aurignac. Hein. Voilà, donc notez-le, le 20 mai. Nous aurons l'occasion de l'annoncer quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant. Isabelle Souroubi, merci.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Avec plaisir, je rappelle que vous êtes médiatrice culturelle aux archives départementales du Comminges à Saint-Gaudens pour la Haute-Garonne.
Tout à fait.
Et Pascal Bergougnan, vous êtes, je le rappelle, chargé de mission auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour la valorisation de la culture et de la langue occitane. Merci à tous les deux.
Plein merci.
Merci beaucoup. À bientôt.